Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Sébastien Vernier. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Vernier, vous êtes ici pour représenter Passe-Montagne, hein, dont vous êtes le fondateur.
Voilà, exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Donc Passe-Montagne, du coup, qui est en fait ma petite entreprise de location d'ânes pour la randonnée, que j'ai créée il y a à peu près 2 ans quasiment.
Ça consiste en combien d'ânes, votre activité ?
Alors aujourd'hui, j'ai un petit troupeau de 7 ânes qui broutent l'herbe autour de Glandage, Grimone, enfin là-haut dans les montagnes du Haut-d'Ivoire, et qui partent en rando, donc avec des familles et... Plein de gens souvent passionnés de montagne.
Et je suppose que chaque âne a son prénom.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et ça se réfère à quoi, les prénoms d'âne? Est-ce que c'est tenu comme pour certains animaux, comme les chiens, où on doit donner un nom qui avec la première lettre qui représente une année?
Oui, oui, il y a tout à fait ça. Alors après, moi, dans mon cas, donc, j'ai commencé il y a 2 ans. J'ai donc recherché moi, des ânes, en fait, à ce moment-là, adultes, qui avaient déjà une expérience de la randonnée ou du travail en général avec les humains. Donc j'ai pas choisi les prénoms, mais effectivement il y a cette idée de lettre et d'année, ouais. Donc je sais pas, moi j'ai 4 femelles et 3 mâles. Donc il y a Cerise, Zazie par exemple, Sirius, Mako, voilà. Ils sont tous bien différents.
Cette activité, elle vous est venue comment? Par la passion de l'âne, de la montagne, les deux?
Ouais, alors c'est une bonne question. En fait, à la base, on va dire que pour moi, il y a la passion de la randonnée, en fait, de la montagne, de la vie en montagne, qui m'a été transmise très tôt par ma famille, mes grands-parents, mes parents, etc. Avec des origines briançonnaises notamment, qui voilà, sont un peu, pour moi, la base de tout ça. Mais par rapport à l'âne, je dirais que c'est plutôt lui, peut-être, qui est venu à moi. En fait, dans ma vie, il y a eu quelques apparitions. À l'adolescence, on m'a emmené sur un séjour de rando itinérant avec des ânes. Et puis ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai retenté l'aventure après dans ma vie d'adulte, en partant 2 mois, en marchant avec un âne en Haute-Provence, on va dire. Et petit à petit, cette rencontre s'est faite. Mais j'ai pas forcément, comment dire, eu plus de contact que ça avec ces animaux. Mais l'idée est restée qu'il fallait que je fasse un truc avec eux, en fait. Voilà, depuis très longtemps. Et aujourd'hui, voilà, tout ça se concrétise avec Passe-Montagne.
Est-ce que l'âne a toujours cette réputation d'être têtu?
Alors, il l'a toujours, ouais. Ça, c'est une question que tout le monde pose, évidemment, c'est normal. Et donc, non, l'âne n'est pas têtu. L'âne, il est prudent, il est très réfléchi. Il a besoin de comprendre ce qui se passe autour de lui. Au contraire du cheval, devant un danger, il ne fuit pas, il cherche à comprendre. Donc, quand on ne connaît pas bien un âne, quand on ne connaît pas ce caractère-là de prudence, on peut des fois lui attribuer ce caractère têtu. Mais selon moi, c'est mal le connaître. C'est une réputation qui s'est faite assez récemment, je pense. Ouais.
Cette passion, donc, vous avez assez rapidement trouvé cette voie de travailler avec des ânes, ou alors vous êtes passé par d'autres processus professionnels?
En fait, moi, j'ai commencé par me plonger dans l'agriculture, en fait. Vraiment, j'ai mis les mains dans la terre, on va dire, autour de 20 ans, avec cette idée de... Alors, venant de la ville, en fait, avec l'idée que j'allais retrouver un peu mes origines, un peu la simplicité de la vie, etc. Donc, voilà, j'étais plein de... plein d'élan, donc, et puis sans trop savoir où j'allais vraiment professionnellement. Donc l'agriculture, l'apprentissage agricole dans des fermes du Vercors, de l'Ardèche. Ensuite, des voyages, de la charpente, de l'animation nature, etc. Et petit à petit, en fait, c'est imposé à moi ma passion de la randonnée. Donc après, moi, j'ai passé le brevet d'état d'accompagnateur en montagne, assez tardivement, on va dire, dans mon cursus, il y a 6 ans à peu près. Et j'ai, voilà, donc en fait, j'ai finalement, la rando, c'est revenu dans ma vie professionnelle carrément avec ce diplôme. Et au bout de 6-7 ans de pratique, en fait, j'ai tout de suite ressenti le besoin de cheminer avec les ânes et de le partager. Donc voilà. D'où on en revient à Passe-Montagne.
Voilà, c'est... Donc vous disiez être revenu de la ville et de retrouver une certaine manière de vivre que vous avez connue auparavant, justement, par la famille peut-être. Ça a été facile ou alors compliqué ?
Alors en fait, j'ai pas retrouvé, parce que moi, ma famille, paradoxalement, a des origines très ancrées en montagne, mais depuis très longtemps n'est plus terrien, n'est plus paysan. Même mes arrière-grands-parents ne l'étaient plus, en fait. Donc, par contre, je pense qu'il y avait dans ma famille un peu un mythe, ce mythe-là du retour à la terre, quelque part, qui devait traîner, et que moi j'ai mis en pratique, je pense. Et du coup... Est-ce que ça a été difficile ? Non, c'est une aventure, c'est une découverte, en fait. Au contraire, ça a toujours été très excitant de retrouver des choses que, autour de moi, dans ma famille, personne n'avait fait depuis très longtemps. Donc c'est l'inconnu, mais en même temps, c'est la découverte tous les jours.
Il y a certainement aussi la jeunesse qui aide à s'installer. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de s'installer après à 50 ans ou 55 ans.
Ouais, alors ça, je ne sais pas trop. Moi, je ne me prononcerai pas. Moi, je connais des projets, des gens dans mon cursus agricole, en fait, avant la rando. J'ai vu des gens s'installer tardivement avec des chèvres, par exemple, et faire du fromage. Donc ça, je ne sais pas trop. Moi, dans mon cas, effectivement, là où ça fait écho, ce que vous dites, c'est que j'ai quand même senti que c'était le moment, parce que effectivement, ça demande beaucoup, quand même, beaucoup d'énergie. Ouais. Trouver les terrains, s'occuper des ânes tous les jours, s'équiper en matériel, travailler dehors tout le temps, subvenir aux... Enfin, comment dire, gérer les problèmes de santé des ânes, etc. etc. Effectivement, c'est beaucoup d'énergie, ouais.
D'ailleurs, vous êtes seul à travailler au sein de Passe-Montagne ?
Alors aujourd'hui, pour l'instant, oui, je suis seul. Ouais. Je suis l'unique créateur et travailleur de Passe-Montagne. Mais j'ai à cœur de travailler quand même en réseau, du coup, avec d'autres structures. Ça, c'est un peu... Ça, c'est très clair dans mon esprit. Cette entreprise, c'est aussi... donc, grâce aux ânes également, c'est de faire du lien entre structures... du territoire, mais aussi du lien dans le village, avec mes voisins, etc.
Alors, ces participations ou ces collaborations sont déjà effectives, je suppose, avec quelques structures ?
Oui, voilà. Alors du coup, principe, on va dire, sur le côté randonnée, en fait, pour l'instant, la collaboration, elle est au niveau de la Buenaventure, en fait, qui est une association qui permet à toute personne d'accéder à la montagne et à la randonnée, en fait, donc aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Et donc on essaye de proposer des randonnées, en fait, où il y a l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite grâce aux ânes, du coup, qui portent du matériel que peut-être on ne pourrait pas emmener en montagne. Et imaginez des bivouacs un peu confort où on peut, voilà. Donc c'est ça. Ça, c'est sur le côté rando. Après, sur le côté élevage, en fait, parce que c'est aussi quelque chose pour moi qui est hyper important dans mon activité, c'est l'élevage, c'est le pastoralisme autour de l'élevage des ânes. Du coup, on bosse ensemble entre éleveurs à glandage. On se fait beaucoup d'échanges de matériel, on achète du matériel ensemble. Et également, là, depuis un an, on a organisé ce qu'on appelle les entraides paysannes, c'est-à-dire que tout... Quelques structures agricoles de glandage, en fait, se réunissent tous les jeudis matin chez un des, on va dire, participants à l'entraide pour réaliser un chantier collectif sur sa ferme. Et donc moi, je bénéficie du roulement. Et puis moi, je vais voilà, tous les 15 jours, jeudi matin, chez les copains, les voisins.
L'âne, justement, est un outil aussi pour ce genre de chantier, par exemple ?
Alors, il pourrait l'être. Moi, j'ai beaucoup ça en tête. J'ai beaucoup envie de développer ça. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que pour l'instant, c'est pas facile d'intégrer le travail avec des animaux dans un mode de vie très mécanisé, où en fait les horaires sont... Les horaires sont précis, où on a des vies, malgré tout, même nous en montagne, dans nos vies un peu, enfin, de nos vies un peu dans la nature, on est quand même contraint à des horaires, etc. Et un peu du découpage de journée en petites heures, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais développer, en tout cas.
Je reviens tout à l'heure avec la participation, le partenariat de la Buenaventure. Est-ce que vous adaptez un siège particulier pour des personnes à mobilité réduite ? Comment ça se passe ?
Mais alors, du coup, ça c'est un peu... Oui, du coup, il y a le... Ouais, enfin, comment dire ? En fait, ça c'est un peu en construction. Pour l'instant, il n'y a pas... Avec la Buenaventure, on a lancé des randos, en fait... On a lancé des randos où l'âne porte les bagages et ensuite donc les personnes à mobilité réduite peuvent être accompagnées par des joëlettes, en fait, donc on pourrait appeler ça des chaises à porteurs un peu tout terrain. Donc c'est un fauteuil posé sur une roue suspendue avec des brancards et qu'on manipule à deux ou à plus en fonction du terrain. Mais donc voilà, c'est encore à affiner à... Et puis, du coup, ce qui me manque aujourd'hui, ou peut-être aussi à la Buenaventure, c'est du matériel qu'on pourrait adapter aux ânes. Donc des joëlettes, par exemple, tractées par des ânes ou des choses comme ça. Mais ça fera peut-être l'objet de futurs financements. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas vraiment effectif.
Justement, en parlant de financement, vous en avez-vous lancé un financement participatif, hein, sur quel site d'ailleurs ?
Eh bien alors du coup, j'ai lancé le financement participatif sur litchi.com. Voilà, donc pour le retrouver, en fait, il faut aller sur Litchi et puis taper Sébastien Vernier et on tombe sur mon onglet, en fait, soutenez Passe Montagne. Location d'âne et randonnée dans le Diois.
Et donc, cette souscription donc, vise à acquérir une certaine somme de manière à pouvoir développer cette activité ou à la conforter même ?
Alors, je dirais, aujourd'hui, là, j'ai passé 2 ans à vraiment créer l'environnement favorable en fait, à l'activité. Donc, les ânes, trouver les bons ânes qui me plaisent, trouver les terrains, etc. Et puis, commencer à rentrer dans ce système d'entraide dont je parlais. Cette année, j'ai commencé des locations d'ânes en liberté, c'est-à-dire l'âne est confié à des familles et puis après, ils se débrouillent sur le terrain. Et du coup, le financement, il va venir asseoir, valider cette première étape par... Là, le principal objet, c'est l'achat d'une part, d'un tiers d'un tracteur en fait, qu'on a justement avec un éleveur de vaches et un maraîcher à glandage, que du coup, qu'on se partage, qu'on se prête à tour de rôle. Et pour moi, c'est un outil en fait, aujourd'hui qui est vraiment indispensable. Donc voilà, mais pour l'instant, mes locations, plus tous les investissements, plus voilà, ne suffisent pas... à réunir tout l'argent qu'il faudrait pour se lancer.
Et tout ça, vous l'expliquez certainement sur le site de Litchi, donc les raisons de ce financement.
Oui, tout à fait, oui.
Qu'est-ce que vous espéreriez à l'avenir ? Une activité, je ne sais pas si elle est pour vous, elle vous permet de vivre, mais ça serait peut-être un but déjà aussi ?
Oui, tout à fait, ouais, de vivre. Alors, du coup, tout en gardant quand même dans l'idée que cette activité doit rester aussi autour du lien avec l'âne et du pastoralisme et de la rando, enfin, un espèce de lien comme ça que moi je vois. En tout cas, je pense pas qu'il soit évident pour tout le monde, mais entre la rando et le pastoralisme, que l'âne reste au cœur d'un lien social, en fait, dans ma vie, et puis peut-être pour celle d'autres. Donc, en vivre, oui, mais surtout pouvoir vivre cette aventure de manière sereine et de proposer, en fait, des randos, des belles randos avec des ânes qui sont bien élevés, bien éduqués, en bonne santé, avec du bon matériel, etc. Mais c'est pas non plus... le but n'est pas forcément... Moi, j'ai une autre activité à côté, en fait, qui me permet de vivre un peu ce rêve, quand même, aussi, malgré tout.
Voilà. Vous parliez tout à l'heure d'avoir 4 ânesses et 3 ânes, donc cela arrive qu'ils se reproduisent, je suppose.
Ouais, alors on évite, en fait, à la base, on évite. Donc, moi, j'ai des mâles castrés, parce que, en fait, dans le travail... Si les ânes mâles ont gardé leur caractère sexuel et toutes les hormones qui vont avec, c'est dangereux, en fait. C'est des ânes qui, en fait, pendant les chaleurs des femelles, vont pouvoir tout casser. Enfin, voilà. Donc, en fait, un troupeau qui travaille, c'est donc des ânesses et des mâles castrés. L'idée, c'est après de faire porter les ânesses que je choisirais pour la reproduction. Et en choisissant également un âne entier, comme on dit, que j'aurais également choisi pour avoir une relève telle que je la souhaite. Ouais.
Vous vous limitez à 7 ânes, ou alors c'est par contrainte que vous vous limitez à 7 ânes, ou vous pourriez en avoir plus si vous le souhaitez?
Alors, si je le souhaitais, on va dire, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir augmenter, effectivement. Aujourd'hui, 7 ânes, c'était déjà un achat quand même conséquent et des surfaces, en fait, en face agricole qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc, de toute façon, un peu limité par la surface, on va dire, aujourd'hui. Et puis aussi parce que donc, je suis en train de concevoir des itinéraires autour de chez moi. Donc, il y a plusieurs vallées, il y a... en fait, on a un accès sur les hauts plateaux depuis Glandage, on a un accès sur le vallon de la Jarjate d'Évoluy vers Luz-la-Croix-Haute, et puis il y a tout un secteur également Buèche-Audiwa, entre Boulc et Vaunières, Saint-Julien-en-Beauchêne, qui sont encore pas explorés. Donc de toute façon, moi je peux pas non plus avoir des milliers d'ânes, parce que il n'y a pas des possibilités infinies de randonnée, mais tout ça est à construire, donc... Petit à petit, ouais, je vais augmenter mes propositions de rando et puis faire de l'élevage d'ânes aussi. Je rêve aussi de ça, quelque part. Voilà, je répète, élever les ânes et vivre avec eux toute l'année, et puis les voir se reproduire, élever les ânons, leur apprendre à randonner, etc. Ça fait partie du futur de mon activité.
L'idéal, quand on commence une exploitation, vous avez débuté avec des ânons ou alors des ânes directement. Il y a un processus d'adaptation, je suppose, et puis de dressage.
Ouais, tout à fait. Alors, un petit commentaire. En fait, souvent on dit qu'un âne ne se dresse pas, mais s'éduque, parce qu'il a... il a un caractère, justement ce caractère prudent et très réfléchi, c'est un animal qui ne supporte pas l'autorité brute et des décisions que lui ne comprendrait pas. Donc en fait, tout un travail relationnel avec l'âne qui permet justement des adaptations incroyables avec plein de gens différents à partir du moment où les gens sont attentifs et essayent de se mettre dans la tête de l'âne, entre guillemets. Voilà, ça c'était un petit aparté sur le dressage des ânes, mais moi j'ai en fait, j'ai aussi des besoins économiques, du coup je ne pouvais pas me permettre d'acheter des ânons et puis d'attendre de les élever, parce qu'en fait un âne, il ne peut pas travailler avant 4-5 ans, il est adulte à 6 ans, du coup il y a aussi des réalités économiques qui font que moi j'ai... Grâce à mon expérience agricole et des animaux, et puis aussi je fais de la tonte de moutons également, donc j'ai quand même toute une connexion avec le monde animal depuis longtemps, et ça m'a permis d'aller chercher des ânes vraiment que j'ai bien senti pour le travail, que j'ai senti bien dans leur tête et qui allaient s'adapter. C'était un peu un pari, mais ça a marché. J'ai des super ânes, je suis hyper content. Ils s'entendent très bien tous ensemble Et puis souvent, ils font la joie, l'unanimité des gens qui les côtoient, voire même d'autres professionnels. Donc je suis très, très fier de mes ânes.
C'est un animal rassurant.
Oui, alors il est rassurant. Alors en fait, l'âne, ça dépend. En fait, un âne qui aurait été, par exemple, un âne qui n'a pas grandi avec d'autres ânes, ne va pas développer tous les caractères, le super potentiel social de l'âne, en fait. Donc on peut tomber quand même sur des individus un peu dérangés ou qui sont pas en sécurité, en fait. Du coup, ils provoquent l'insécurité chez les personnes qui les entourent. Mais les ânes, en fait, par leur côté grégaire et très sociable et non hiérarchique, en fait, et ils ont une espèce de, enfin, ils ont un caractère territorial. Du coup, ils sont plus dans la gestion d'un espace que dans la fuite, par exemple, comme le cheval, et puis courir après la ressource alimentaire. Donc, ils ont ce truc-là de, on gère l'espace, on gère notre espace, on observe qui rentre dedans, qui sont les prédateurs éventuellement de cet espace, et on s'organise pour que soit les gens ne rentrent pas, soit en fait on compose avec eux. Et quand les ânes, ils sont bien dans leur tête par rapport à ça, et ben oui, ils ont un côté très 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 rassurant, ils communiquent une grande confiance en eux, en fait, ils savent dire non sans chichi, mais également ils sont pas rancuniers, enfin c'est quelque chose de très, ouais, très touchant, qui communique beaucoup de... Moi je trouve beaucoup de confiance, ouais. Vraiment, ouais.
Ce financement participatif chez Litchi vous permettrait quoi alors précisément pour les prochains temps?
Voilà, bah du coup pour les prochains temps c'était donc acquérir ce tiers de tracteur, en fait. Voilà, donc c'est surtout ça. Après si par... Si par bonheur il y avait un peu plus, après moi j'ai besoin de matériel aussi, de un peu de pastoral, de pâturage, c'est-à-dire des râteliers, du matériel de clôture, etc. Et donc en fait quand tout ça sera assis et stabilisé financièrement, je pourrais passer après à la remise en état de mon matériel, parce que j'ai démarré avec de mon matériel de rando. J'ai démarré un peu avec des bas, des selles et tout ça, un peu de briques et de broc. Voilà, et puis ensuite, s'équiper pour réellement accueillir des personnes à mobilité réduite, etc. Enfin c'est infini. Peut-être un jour, ouais, construire une grange, etc. Enfin, un lieu d'accueil.
Un âne a besoin de combien de superficie, par exemple, pour se nourrir?
Alors un âne, ça dépend beaucoup du terrain. Souvent, on parle d'un hectare par animal et par an. Donc c'est 10 000 mètres carrés. En fait, à Glandage, moi, ce qui se passe, c'est que je suis j'arrive en périphérie un peu des activités agricoles de production. C'est-à-dire, il y a un élevage de vaches, il y a 3 élevages de moutons, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je récupère comme terrain aujourd'hui, c'est plutôt des bois, des landes sous bois. Donc, en fait, j'ai besoin de beaucoup plus. J'avoue que c'est très difficile à évaluer, parce que moi, j'ai des terrains, en fait, des fois, j'ai une parcelle de presque 9 hectares, mais dedans, il y a des ravins, il y a des rochers, il y a des buis, il y a des pins...
L'orage aussi.
L'orage.
Comment on supporte un âne
sous l'orage?
Oui.
L'orage. L'âne, il n'a pas peur de l'orage. Il se cale quelque part à l'abri. En fait, c'est ça son truc. Et puis, il attend que ça passe.
Bon,
grand philosophe qu'il est.
D'accord. Sébastien. Avant même de revenir dans le monde rural, vous pressentiez cette envie de vous y rendre en étant citadin?
Non, ça a mis beaucoup de temps. Enfin, ça a été en fait un clash, ça a été une prise de conscience un peu difficile autour de la vingtaine où en fait je crois que je me posais pas trop de questions. Je savais que j'aimais la montagne. J'y allais régulièrement, et d'ailleurs c'est les meilleurs moments que j'ai toujours passés dans ma vie d'adolescent, enfin d'enfant, d'adolescent. En fait, c'est là où je me suis senti toujours bien. Mais la conscience a émergé un peu tardivement à la vingtaine, où là j'ai dit non mais c'est en fait je suis en ville, mais ce que je regarde tous les jours c'est les montagnes à l'horizon. J'y vais le week-end, c'est là-bas que je me sens bien, il y a un truc qui cloche. Et donc à un moment je me suis dit mais les montagnes elles sont à l'horizon au bout du boulevard là-bas, et ben pourquoi t'irais pas y vivre. Et voilà, cette prise de conscience a été aussi amenée par des rencontres, des copains qui avaient grandi à la campagne et qui m'ont aidé à franchir le pas.
Vous parliez en début d'émission de louer vos ânes à des touristes de passage. Qu'est-ce qui établit, d'après vous, une confiance au point de pouvoir louer un âne à des personnes?
C'est une bonne question. C'est quelque chose que je n'ai pas complètement résolu. C'est beaucoup de discussions en fait, avec les gens. C'est du temps passé par mail, ensuite au téléphone. Et puis après, du coup, moi, je confie mes ânes après au moins 3 heures de palabres autour de l'âne en question qu'on va laisser. C'est-à-dire, pas en théorie, c'est-à-dire que j'accueille les familles, on se présente... On boit un café, après on se présente à l'âne, on le soigne, etc. Moi, je prends beaucoup de temps et du coup, pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que c'est toujours un peu un petit pari, je reconnais, c'est un peu un pari de laisser partir les gens avec mes ânes. Mais pour l'instant, ça fonctionne. J'arrive à valider à peu près dans ce temps que les gens sont attentionnés. Ils ont souvent une expérience aussi de la randonnée avec des ânes. En tout cas, ce que je peux dire après ma première saison, là, c'est que les retours que j'ai eus des familles après la rando, c'était vraiment énormément toute cette attention. Ils ont eu cette attention que moi j'attendais ou que moi j'ai en fait aussi quand je randonne avec mes ânes. Et j'étais agréablement surpris d'entendre dans leur bouche des mots que moi je mets sur la rando avec les ânes. Et c'est, voilà. Donc, c'est encourageant pour la suite. Après, je souhaite vraiment partager cette passion de la rando avec les ânes avec le plus grand nombre. Donc, en fait, la location liberté, c'est-à-dire comme ça aux familles qui sont déjà expérimentées, qui ont souvent un certain niveau social... c'est très chouette de rencontres, etc. Et ça permet de fixer une activité. Mais j'espère aussi pouvoir bosser avec des centres sociaux, avec des gens qui ont peut-être moins les moyens, et de vraiment d'ouvrir la rando avec les ânes au plus grand nombre.
Autour de ces ânes, vous avez d'autres activités, la tonte, et puis d'autres. Il y a d'autres envies que vous souhaiteriez explorer?
D'autres envies que j'aurais envie d'explorer, il y en a plein. je crois que je me suis vraiment... Enfin, j'ai essayé de lancer un projet à la base, il y a 2 ans, c'était apiculture... un peu de plantes aromatiques, l'élevage des ânes et puis la tonte des moutons. Et en fait, il y a au printemps, je ne sais plus quand, en 2017, là, j'ai vu que déjà, si je voulais amener à bien ce projet d'élevage d'ânes et de location, il fallait que je me concentre là-dessus. Donc, non, moi, les envies que j'ai, c'est comme je disais, c'est ouvrir le champ en fait des possibles avec l'âne en fait et son et toutes ses qualités sociales. Donc là, moi, je vais me former, notamment en médiation asine, par exemple, en 2020. Là, je vais suivre deux formations avec l'association Médiane, qui propose justement d'explorer le lien entre humains et ânes, mais au service d'une réparation thérapeutique, en fait, autour de... soit d'une rupture sociale, soit d'un handicap physique ou mental, etc. Donc voilà, mes envies, elles sont vraiment aujourd'hui autour de l'âne et de tout son univers.
Le temps des vacances, vous en avez des fois pour vous?
Alors, en fait, ce que j'ai réalisé aussi, moi, dans ce beau projet-là que je suis en train de mener, c'est que, en fait, j'en ai pas... J'ai du temps libre, en fait, mais c'est pas vraiment organisé, c'est toujours autour de l'activité. Et en fait, comme je disais, moi, j'ai les meilleurs moments que j'ai passés dans ma vie d'enfant et d'adolescent, c'était en montagne. Et aujourd'hui, j'y vis, j'y travaille, mais quelque part, c'est comme si j'avais trouvé le lieu où travail et vacances n'étaient plus un espèce de binôme qui s'affronte, quoi. Alors, des fois, moi, je monte m'occuper de mes ânes et ça me ressource, donc voilà. Mais oui, je vais quand même aller faire un petit week-end dans les Calanques en octobre, je pense. Ou... voilà, non, mais j'ai du temps aussi pour ça, ouais.
À Dodane, peut-être.
À Dodane.
C'est peut-être pas la meilleure période.
Ouais, non, ouais. Non. Bah, ça sera un peu de manière plus conventionnelle, mais ouais.
Est-ce que, comme ça, une question, est-ce que vous pensez que l'animal pourrait redevenir un moyen de locomotion ?
Et ben, du coup, c'est une question que je me pose depuis toujours, très longtemps, en fait. C'est un peu un moteur aussi, quelque part, pour moi. C'est une espèce d'utopie. J'aimerais, et en même temps, je me rends compte qu'en mettant les mains dans la question, c'est-à-dire en élevant les ânes et en voyant aussi la réalité que ça comprend, je sais pas. En fait, ça ouvre beaucoup... Du coup, cette envie peut-être de retrouver des mobilités, des vies beaucoup plus proches de la nature m'amène à vivre à Glandage et à faire plein d'expériences, mais du coup, j'ai moins de réponses, je pense, qu'avant. Par rapport à ça. C'est possible et en même temps, pour l'instant, le monde va trop vite. On court trop pour se déplacer à pied ou avec des ânes dans nos vies de tous les jours. C'est une tentative de mettre passe-montagne. Pour moi, c'est un peu première tentative de mettre un pied sur le frein. Ouais.
C'est ce qui vous a motivé, passe-montagne, c'est de renouveler une autre manière de vivre.
Ouais, tout à fait, ouais. Une autre manière de cheminer, ouais, vraiment, clairement. Parce que moi, ma vie, c'est vraiment, de toute façon, je crois que c'est ça. Moi, je n'irai pas plus loin que ça, c'est-à-dire, c'est la rando, c'est retrouver les chemins oubliés de Glandage et des Alpes. Mais en prenant le temps et en essayant de comprendre aussi d'où je viens. Et l'âne, en fait, je commence à bien comprendre ce qu'il montre en fait dans sa façon de cheminer en montagne, et il nous raconte comment les hommes en fait et les femmes avant vivaient ici dans le Haut-Diwa. Voilà.
Parce que dans le Haut-Diwa, il existe, hein, au-dessus de Châtillon, il me semble, il y a beaucoup de pistes qui sont quasi abandonnées, mais qui servaient de voies pour les animaux, pour le transport aussi, non ?
Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a des vieux chemins enfin, qui sont attestés par des ruines, notamment. Il y a un chemin assez connu, on va dire, des archéologues, et puis un peu des gens du coin, là-haut, à Glandage. C'est en fait la route qui faisait le Diwa... au Buèche, en fait, en passant par Châtillon-Diwa, Ravel, Boulc, ensuite le col de Boulc, le col de Luce, donc à ne pas confondre avec celui de Grimone, col de Luce, et ensuite on redescend sur aujourd'hui ce qui est la gare de Luce, et donc quand on est là, après on peut repartir sur Grenoble ou descendre sur Sisteron. Et oui, ça c'est, voilà, moi quand il y a des vestiges de ces sentiers-là, et quand je les retrouve avec mes ânes, je suis aux anges, quoi. C'est magique.
L'âne est-il joueur ?
L'âne, ouais, il est joueur. Il est surtout très câlin. Il vient nous bousculer pour avoir des caresses. Enfin, voilà, c'est... Ouais, 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 tout à fait, ouais. Après, moi, j'ai pas... Joueur, je dirais pas vraiment ça, ouais. C'est plus qu'il... En fait, il nous adopte comme... S'il se sent bien avec nous, il nous adopte comme un congénère. Du coup, En tout cas, si le jeu, c'est être en relation, oui, on peut dire qu'il est joueur.
Sébastien, on pourrait peut-être indiquer aussi donc, le site, hein, Litchi, comme vous le disiez au début de l'émission, litchi.com, en tapant Sébastien Vernier, et on tombera directement sur votre page Passe-Montagne.
Là, en fait, on tombe sur, du coup, le... En fait, c'est tout le déroulement de... Enfin, toute mon explication autour de ma campagne de financement participatif. Je peux également peut-être conseiller mon site internet, en fait, qui est ma vitrine, qui est passemontane.com, donc P-A-2-S-E-M-O-N-T-A-N-E.com. Également, vous pouvez aller voir quelques photos, une vidéo également, et aussi le lien vers Litchi sur ma page Facebook Passe-Montagne. Donc, tapez Passe-Montagne ou @anne.rando. Et voilà, vous aurez des très belles images. Alors, je tiens aussi à remercier Loïc Belay, en fait, qui est un ami qui a fait mon site internet, qui est venu faire des prises de vue et un film sur glandage. Et je vous le recommande, loïcbelay.com. Sur son site internet, qui, voilà, c'est un copain qui a un regard vraiment super sur la nature, vraiment très très chouette, et les gens aussi.
Sébastien Vernier, je vous remercie d'être venu de si loin pour nous présenter donc Passe-Montagne, et puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous surtout.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.